La carte Visa Orange Monnaie, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Appel sur l'actualité, deuxième partie, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Comme chaque vendredi, c'est la libre antenne. Moi, je me détends puisque c'est vous qui faites le menu. C'est l'occasion de poursuivre les discussions de la semaine, de lancer de nouveaux débats. Merci en tout cas de votre fidélité. Comme toujours depuis le 12 août, nous avons reçu de nombreux messages sur la mort de DJ Arafat. On a parlé hier des obsèques qui sont organisées ce week-end avec une immense fête toute la nuit au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Demain, une grande procession funéraire de 10 km jusqu'à l'enterrement à Adjamé. Alors n'en fait-on pas trop pour le chanteur? Les autorités ne font-elles pas un peu de récupération avec ces festivités? C'était notre débat d'hier. Ange, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Abidjan et vous vouliez rebondir hein, sur ce débat. Vous, sans aucun doute, comme tout le monde, aujourd'hui, vous allez suivre ces obsèques.
Effectivement, nous allons suivre ces obsèques. Voilà, depuis le 12 août, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toute l'actualité est cristallisée autour de la mort de DJ Arafat. Nous avons suivi trois phases. D'abord, le 12 août, tout le monde était unanime que c'était une grande star et tout cela. Après, nous sommes passés à une phase de stigmatisation de ses fans, les Chinois. Et aujourd'hui, la psychose est grande à Abidjan. Nous recevons des messages du genre « c'est un rassemblement satanique » et qu'il ne faudrait pas y aller. Et donc, ça crée un véritable problème. Aujourd'hui, nous voyons que DJ Arafat de son vivant a été attaqué. Et encore, même à sa mort, il est controversé. Voilà qu'on demande aux gens de ne pas y aller et pour voir un fiasco au stade Félix Houphouët-Boigny. Alors, je dis à ces détracteurs-là qui ne connaissent pas vraiment les Chinois, et que, voilà, les hommages seront grandioses.
Mmh. Vous êtes convaincu que tout va bien se passer?
Tout va bien se passer. Voilà, on a écouté le préfet d'Abidjan aujourd'hui sur vos antennes. Je pense que tout va bien se passer. Et d'ailleurs, je demande aussi aux hommes religieux, les pasteurs et tout ça qui fondent leur fidèles sur Facebook, vraiment de se rendre au stade ou de prier pour les milliers de personnes qui y seront aujourd'hui.
Mmh. Et je crois que vous avez une histoire un peu personnelle avec DJ Arafat, Ange, pour vous. C'est un peu une... ça vous rappelle votre jeunesse de bon moment?
Alors, c'était à Grand Bassam dans le temps, en 2003-2004 par là, quand je faisais la rencontre de ma chérie, la mère de mes enfants. Et c'était au son de DJ Arafat. Alors, elle se connaissait tellement bien et puis la fête s'est tellement bien passée. Avec des amis aujourd'hui, on va se retrouver pour commémorer à notre façon notre héros national, DJ Arafat.
Merci Ange. Direction Ségou maintenant au Mali. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour.
On n'avait pas eu le temps de vous entendre. Allô. Hier Emmanuel. Selon vous, c'est naturel que l'État ivoirien enterre Arafat comme un roi?
Oui, tout à fait. Pour moi, Arafat est un roi. Il est le roi du coupé décalé. Et c'est une icône pour la jeunesse africaine. Donc sa disparition est une grande perte.
Une icône, mais quand même avec une personnalité musique, controversée.
Pour moi, en fait, c'est une icône. En ce qui concerne sa vie personnelle, moi, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Mm-hmm. Mais musicalement, quand même, Arafat était le roi du coupé décalé. Il n'y avait pas son dieu dans cette génération de coupé décalé. Et sa disparition vraiment.
Est-ce que vous lui voyez des successeurs, des héritiers, Emmanuel, des gens que vous allez écouter avec presque autant de plaisir qu'Arafat?
Bon, Ariel Chené et puis Safarel Obiang sont des artistes aussi que j'ai commencé à suivre. Et pour moi, ce sont les potentiels successeurs d'Arafat.
Mmh. Oui. Ouais, des stars du coupé décalé qui ne seront pas au stade ce soir puisque suite à une grande mobilisation des fans de DJ Arafat, ils ont été un peu exclus de ces commémorations puisqu'ils étaient en froid, fâchés avec le chanteur. Alors qu'au contraire, il y aura pas mal d'autres stars hein, comme Serge Beno ou comme le Nigérian Davido. Ahmed, vous êtes à Paris. Bonjour. Ahmed, est-ce que vous êtes là? Ahmed à Paris. Alors, on n'a pas Ahmed. Peut-être qu'on va pouvoir filer à Liège avec Papi Tcho. Papi Tcho, êtes-vous là? Bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Alors on change de sujet, là on va parler du nouveau gouvernement en RDC, évidemment on en a discuté sur l'antenne, beaucoup de messages aussi sur ce sujet, annoncé lundi à l'aube après des mois d'attente. 66 membres, deux tiers, un tiers entre le FCC de Joseph Kabila et le CACH de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette équipe?
Ben écoutez, moi je pense que je suis très pessimiste d'abord. Quant à l'action concrète.
Alors, Papi Tcho, je suis désolé, je ne sais pas si vous êtes dans un environnement un peu peut-être clos, mais on ne vous entend pas très bien, même pas du tout. On va essayer de demander l'avis de Bintou à Kinshasa. Bintou, bonjour.
Bonjour François, bonjour à tous les éditeurs de la RFI.
Alors, vous, on vous entend très bien, du coup, vous allez pouvoir nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle équipe gouvernementale.
Mais nous saluons l'avènement du premier gouvernement de l'alternance pacifique 5 années avant, après l'indépendance. La RDC a su démontrer à la face du monde qu'elle peut réunir tous ses enfants et œuvrer ensemble dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Certes, les défis sont très nombreux à relever, mais la priorité des priorités pour moi, c'est le rétablissement de la sécurité à l'est du pays. Pour rétablir la sécurité à l'est du pays, je vous conseille à la République et au président de la République d'utiliser les bâtons et la carotte. Les bâtons, c'est le FRDC avec tous les alliés qui sont en train de les accompagner sur le terrain afin de neutraliser ce qui peuvent être neutralisés. Et la carotte, pour savoir qu'est-ce que ces gens veulent, qu'est-ce que nous pouvons faire, pourquoi ils s'attaquent à la population civile qui n'a rien à voir avec qu'est-ce qu'ils cherchent réellement. Et cela permettra à ce que les groupes locaux puissent se retirer et même les groupes étrangers. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce que nous pouvons faire pour sécuriser totalement l'est du pays en utilisant les deux voies de sortie.
Merci Bintou d'avoir été en ligne de Kinshasa. Là aussi, on a la ligne qui saute. Alors peut-être que ce sera mieux à Goma, sait-on jamais. Verlaine Rémy, est-ce que vous nous entendez?
Bonjour François Bazet, oui je vous entends très bien.
Très bien, tant mieux. Alors Bintou vient de nous dire que la sécurité doit être la priorité du nouveau gouvernement de RDC. Vous qui êtes à Goma dans le Nord Kivu, est-ce que vous fondez des espoirs dans ce gouvernement Ilunga?
Nous fondons des espoirs bien sûr, parce que déjà le changement que nous sommes en train d'apprendre au niveau en fait, du commandement militaire au niveau du Nord Kivu et précisément à Beni, ce sont des changements que nous sommes en train vraiment d'élouer et c'est une très bonne chose. Et je suis vraiment en train d'encourager Madame Bintou qui vient de parler sur l'aspect sécuritaire qui doit être prioritaire pour le président de la République, surtout à l'est du pays. Et bien évidemment, on doit aussi s'attendre à beaucoup d'aspects visant le changement pour le bien de la population. Et donc toujours par rapport à ça, en fait, l'inquiétude que bon nombre de Congolais ont, c'est le budget qu'il faudra allouer à tous ces ministères et pour leur installation et l'ambition inventée par le chef de l'État lui-même. Dans tous ces discours, ils vantent le peuple qu'il faudra mettre au premier rang. Certes, c'est un gouvernement de coalition, vous l'aviez dit, mais dans tous nos gouvernements, nous avons eu depuis Kabila au pouvoir, jamais entendu un premier ministre ou un président soulever la question de la baisse des émoluments des ministres et cadres comme députés et d'autres hauts fonctionnaires
du
pays.
Parce que là, Verlaine Rémy, avec 66 ministres, ça va faire plus de 10% du budget juste pour le fonctionnement. On ajoute à cela toutes les autres institutions. Vous craignez que tout simplement, il n'y ait aucun moyen d'investir pour les priorités des Congolais, en premier lieu la sécurité?
En fait, il y a les moyens d'investir pour le bien des Congolais, mais le problème reste au niveau de la rigueur dans la gestion du pays et les audits sérieux pour des budgets alloués à tous nos ministères. Parce que vous savez que nos ministres sont habitués au luxe et pendant si on fait allusion à ce que prône le président de la République, il veut que tous les fonctionnaires se retrouvent et il veut la hausse des salaires des petits fonctionnaires. Donc on veut de lui de la rigueur dans la gestion. On ne voudrait pas qu'il se limite au discours comme l'ancien président. On veut qu'il soit un président qui est sur terrain, qui soit sur terrain en fait pour le bénéfice de la population. C'est ce qui doit être le plus à encourager dans sa gestion en fait.
Merci Verlaine Rémy d'avoir été en ligne avec nous de Goma. On retourne à Liège puisqu'on a retrouvé Papicho. Êtes-vous là, Papicho?
Oui, bonjour, vous m'entendez mieux?
Oui, tout va mieux maintenant. Est-ce que cette équipe de 66 membres, vous êtes convaincu ou non?
Non, pas du tout, pas du tout. Et je suis fort pessimiste quant à la réussite de ce gouvernement. Je le disais tout à l'heure que la cartographie de ce gouvernement prouve que M. Félix n'essaie toujours pas émanciper de M. Kabila. C'est vrai que l'exécutif est les reflets de forces politiques majoritaires au Parlement, mais stratégiquement, M. Félix devrait s'ouvrir à d'autres forces politiques sur place. Je pense que c'était une stratégie qui aurait pu lui aider à renforcer son ancrage au niveau national.
Mais Papicho, quand même, dans ce nouveau gouvernement, il y a beaucoup de nouvelles têtes. C'est une bonne chose. C'est ce que voulaient les Congolais, un renouvellement.
Oui, il y a beaucoup de nouvelles têtes. Il y a de jeunes qui ont une vision sublime du Congo. Il y a de jeunes qui sont très motivés. Et je pense qu'ils vont travailler pour l'intérêt de leur pays. Mais il y a aussi de personnalité ou une personnalité très toxique qui est reconduit au même poste. Et nous savons que ces genres de personnes travaillent pour les saucissonnements de certaines provinces du Congo. Et donc c'est la preuve aussi de la soumission de M. Félix
à l'ancien régime qui, selon vous, voilà, la page Kabila n'est pas encore tournée. Merci, Papicho, d'être revenu avec nous et à nos autres auditeurs congolais d'avoir discuté de la formation de ce nouveau gouvernement. Nous allons au Togo maintenant. Bonjour, Jacques. Jacques, est-ce que vous nous entendez? Alors, pas de ligne au Togo, peut-être que ça va mieux à Ouagadougou. Bonjour Mariam.
Comment je vous entends?
Mariam, allô? Est-ce que vous nous entendez?
Oui, bien, je vous entends maintenant.
Ah, très bien. Vous présidez une association qui s'appelle les Sentinelles contre l'insalubrité. Une de vos missions, c'est la sensibilisation contre le paludisme. On en a parlé lundi dans l'émission, on est en pleine saison des pluies. Et vous vouliez apporter certaines précisions, notamment sur les démarches qu'il faut entreprendre pour lutter contre le paludisme au quotidien. Allez-y, Mariam.
Oui, merci. Oui, bonjour Erki. Je vous remercie pour cette tribune qui me permet de parler des initiatives développées dans mon pays afin de lutter contre le paludisme. Bonjour, cher auditeur. Je suis avec Madame Traoré Mariam, présidente de l'association Les Sentinelles contre l'insalubrité. Nous avons obtenu notre récépissé le 30 mai 2010, mais je signale que depuis plusieurs années, nous dénonçons, nous critiquons et nous proposons des solutions à nos autorités dans les émissions interactives avec nos propres moyens afin qu'elles décrètent une journée de la salubrité. Appliquer la loi et puis sanctionner fortement par des contraventions, voire des peines même d'emprisonnement, certains Burkinabés incivils qui ont des mentalités et des comportements inhumains. Ils polluent l'environnement et ne respectent pas les règles de société établies pour mieux vivre en cohésion. Mais ce que je suis, il manque la volonté politique. Nos idées ne sont pas exploitées.
Pour vous, il n'y a pas assez de volonté politique dans votre pays pour vraiment mettre fin au paludisme?
Franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas et alors nous avons pris nos responsabilités parce que l'État, c'est nous-mêmes, population. Nous avons créé l'association parce que nous trouvons que l'environnement est le socle de tout développement. Nos objectifs, là, c'est de contribuer au bien-être des populations du Burkina Faso.
Mais voilà. Mariam, peut-être qu'il y a un problème au niveau des autorités, mais il y a aussi un problème au niveau des personnes. On a bien entendu lundi des témoignages d'auditeurs qui disent « bah mon voisin, on lui a donné une moustiquaire imprégnée, il s'en est servi pour clôturer sa parcelle ». Si les gens n'utilisent pas leur moustiquaire et ne nettoient pas leur propre parcelle, ce n'est pas la faute de l'État.
Bien sûr, et je profite de cette tribune pour interpeller les dirigeants africains qui sont préoccupés par les politiques et les élections. Et alors que les populations qui sont les électeurs doivent être en bonne santé. Elles sont nos richesses pour le pays. Et puis, je demande la demande de définir des politiques et mettre des systèmes de gestion. Mmh. Des ordures dans les villes africaines qui sont sales. Franchement, ça ne va pas. Et tantôt, j'ai dit que la population, l'État, c'est nous-mêmes population. Donc, il faut éduquer les populations. C'est notre mission d'ailleurs, c'est notre combat pour aider certains Burkinabés avec l'exode rural à acquérir le savoir-vivre et le savoir-être même en ville. Parce que les moustiquaires ne suffisent pas. Il faut sensibiliser, conscientiser et responsabiliser la population à observer des petits gestes élémentaires en matière d'hygiène.
D'hygiène quotidienne, voilà. Un travail pour l'autonomisation. Merci Mariam de nous avoir alerté sur ces lacunes des politiques de santé et d'urbanisme au Burkina Faso. Alors, on n'a pas pu récupérer Jacques qui voulait nous parler du permis moto au Togo et que le mettait de mauvaise humeur. Si Jacques, finalement, vous êtes là. Jacques, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, bonjour. Oui, je suis là. Bonjour.
Alors, ce permis moto, il va vous être imposé par le gouvernement togolais et vous n'êtes pas du tout satisfait ?
Oui, mais avant tout, permettez-moi de présenter mes sincères condoléances à toute la communauté ivoirienne de par le monde. Oui, comme vous l'insinuez, le permis de conduire dont on parle les autorités, à l'instar donc bien entendu du ministre de la Sécurité, le colonel Yark, ne semble pas être bien placé. Puisque nous avons un grand problème ici, les jeunes savent conduire comme nous le disions, mais c'est seulement il faut les appeler à respecter ce code de la route.
Alors Jacques, il y a eu 3000 accidents au premier semestre, 354 morts, la moitié provoquée par les motocyclistes. Il y a bien un problème quelque part au Togo.
Oui, nous ne contredisons pas ce chiffre-là. Mais le problème, tel que je le disais, si tout à l'heure j'ai mon permis de conduire et qu'il arrivait que cet accident ou il arrivait qu'un éventuel accident m'arrive et que je présente ce permis de conduire, est-ce que l'autorité ou du moins ce militaire qui est donc laissé à son poste me le fera passer? Je ne pense pas. Moi, je pense que plutôt l'autorité devrait amener les motocyclistes à respecter ce code de la route. Je demandais sur vos antennes si aujourd'hui quelqu'un, ou du moins moi qui suis là, est-ce que je ne sais pas que lorsque le feu rouge s'allume, je dois m'arrêter, ou du moins lorsque le feu vert s'allume, je dois continuer? Ça, ce n'est pas un problème. Ce qu'il faut faire, il faut d'abord voir l'état des routes, ça c'est un. Secondo, quand l'autorité parle de ces accidents, nous ne sommes pas contre, mais il faut aussi voir les animaux sauvages, les bêtes sauvages qui ne font que déambuler dans la ville. Ça aussi, c'est aussi un fléau. Se mettre un peu de pression sur cette question de permis de conduire, je ne suis pas contre, mais il faut aller pas à pas. Aujourd'hui, ils ont entre-temps parlé de casque, de port de casque. Aujourd'hui, je pense que c'est rentré dans l'habitude des citoyens. Et on n'en parle plus. Il faut aller pas à pas. On nous dit que d'ici le 20 septembre, les choses vont commencer et les sanctions vont s'en suivre, si je ne me trompe pas,
De ce moment-là, effectivement, on comprend bien, Jacques, que ça vous semble irréaliste et pas nécessairement la priorité en matière de sécurité routière. Très rapidement, le mot de la fin, c'est pour Ahmed, qui est à Paris. Ahmed, on revient sur les obsèques de DJ Arafat. Pour vous, le dispositif est complètement démesuré.
Oui, bonjour à tous. Comme je disais, oui, effectivement, j'ai trouvé que le dispositif est beaucoup, beaucoup démesuré par rapport à ces funérailles. Je ne peux pas comprendre que Arafat, qui a pris son temps à ne faire que crier et dénigrer ses collègues musiciens sur les réseaux sociaux, soit aujourd'hui mis sur tout le panneau